Bon, le thème est très riche. Les intervenants sont très érudits. On a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on a le temps limité. On doit tout à l'heure partir à certains moments, mais quand même, si on ne laisse pas un petit peu de temps pour au moins quelques questions, je pense que ça va donner une impression que notre colloque n'est pas très démocratique. Avant que je vous dise une chose, je profite en tant qu'organisateur pour vous passer deux, trois infos. Première, c'est dans le cadre de séminaire que j'organisais au Collège d'études mondiales que j'ai organisé ce colloque. Cette année, c'est plutôt sur le modèle politique chinois. Il y a encore une science, Michel Bonin va apporter sur la question de thème totalitaire. Est-ce que applicable encore ou pas pour la Chine le mois dans certains, c'est le 22, je crois, c'est vendredi. Hein. Si parmi vous quelqu'un qui s'intéresse, vous êtes le bienvenu. Ensuite, le séminaire sera continué l'année prochaine. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, une autre info que je voulais passer, c'est en tant qu'un témoin historique. Parce que depuis ce matin, on a parlé sans cesse, cet événement de 1989. Vous savez que pendant tous ces 30 ans, cette année, c'est 30 ans d'anniversaire. J'en parlais beaucoup, je dis que le 89, c'est un sujet d'actualité, pas simplement pour la revendication. Si quelqu'un parmi vous, je vois beaucoup de jeunes, je sens une responsabilité hein, de parler deux, trois mots, profiter de cette occasion, prendre deux, trois minutes. Les revendications de 89 sont toujours des sujets d'actualité. Par exemple, demander la publication des de transparence des biens, ça fait partie de sept revendications, les premières sept revendications du mouvement 89, hein, sans parler d'élections, etc. Et pas simplement les revendications, ce sont toujours des sujets d'actualité. Et l'héritage de 89, c'est aussi sujet d'actualité. Donc, pour comprendre la Chine aujourd'hui et aussi toutes ses conséquences, je pense que j'invite les jeunes hein, auditeurs aujourd'hui là, revoir un peu cette histoire. Je pense que ça va vous donner un peu plus de lumière sur ce que se passe actuellement. Concernant, Léon vient de parler, en tant qu'un des membres d'un sous-groupe à l'époque pour établir un. Je fais des groupes hein, pour établir un plan de réforme politique. Économique, dont on a parlé, cette histoire de 50 ans, tout ça. Aujourd'hui, je n'ai pas de temps de parler. Je vous dis une chose, à l'époque, quand même, plus ou moins, dans quelques décennies, mettre en œuvre une démocratisation était un sujet discuté. En tant que, hein, je vous dis, c'est en tant que témoin, acteur historique, je vous parle de ça. Malheureusement, tous ces espoirs sont partis avec 89. Donc voilà, je m'arrête là. Avant que je passe hein, pour encore une fois, parce qu'après tout le monde se lève pour remercier tous les intervenants. Aux qualités que tout le monde a constaté, sinon ça fait longtemps que vous êtes déjà parti. Hein. Ensuite, Madame Oromerle, je prononce toujours Madame Perle, pour sa qualité de traduction. Hein. J'ai vu une fois la conférence de. Voilà. J'ai vu une fois la conférence en direct du président de la République traduit en chinois. Je vous garantis, le traducteur est beaucoup moins qualifié que notre. Mais par contre, il faut qu'on parle ici. Il faut parler à l'Élysée. Écoute, moi, je préfère le garder. Voilà. Maintenant, la question, on peut, désolé, hein, on ne peut pas éternellement parce qu'on doit quitter les lieux. Désolé, je crois que ça me donne l'impression peut-être un jour revenir tous ces intervenants. Je réserve une journée entière pour parler. Hein. Bon, voilà. Maintenant, il faut qu'on choisisse quelques questions rapides. Veuillez m'excuser.
可以啊，这个我想先谢谢各位嘉宾啊，然后就着道长的这个演讲问一个问题，既问道长也问其他的这个嘉宾，就是刚你提到了香港的这个民族主义或者民族观念是一种生的民族观念，我就想问，就是说这种生的民族观念肯定是跟世界上大部分地方是有区别的，它的命运会怎样，它的未来会怎样？我想再补充一下，就是我生活在这片土地，这个欧洲这片土地，我知道也有另外一个城市，比如像维也纳，它在一战前也是一个比较类似的处境，对吧？然后一战，在法国、德国也有这种类似于像我们中国现在的这种叫做伤痕，建立在伤痕基础上的这个民族国家建构，最后导致了一战、二战，现在的维也纳可能就不再是一个国际化的城市，而是奥地利的首都而已。香港的未来会怎样？会是一种什么样的框架？大家有什么几位嘉宾有什么设想？
Je traduis parce qu'elle est fatiguée. J'ai le pitié pour elle. Hein. Bon, sa question porte sur quel est l'avenir, quel est le destin de ce nationalisme, cette identité, hongkongaise. Hein, voilà, il fait référence à certaines villes, par exemple Vienne en Europe. En même temps, cette éducation nationale, basant sur l'humiliation nationale, conduire à catastrophe en Europe, tout le monde sait. Est-ce que, qu'est-ce que tous les indépendants pensent cette affaire? D'abord,
je ne suis pas très certain de ne pas pouvoir avec Vienne et Hong Kong, je ne peux pas le dire. Mais je voudrais dire que c'est 香港的的确确是一个，照我刚才我再重复一遍，是很罕见的一个个案，就是有一个地方这么现代化的大都市里面的人，整整几十年没有在一个民族国家机器里面去锻造过他的国族主义认同，在这个情况下，他在一个殖民地的特殊的设计下，它保留跟发展了某种我们过去见过的南方海洋华人或者是东南亚华人式的那种民族主义，那种民族主义我叫它生，是因为它其实是民族国家构建之前的推动民族国家建立的动力，但是民族国家完成之后，建国之后，反过来要约束跟规律去 discipline这些民族主义的内容跟他跟个人的关系，我觉得现在就在这个阶段，就中国会想在香港做这件事，但我觉得会发生非常大的困难和冲突。那就刚才我讲，因为现在真的是又有个两制的框，那你这个国民教育怎么可能呢？你不在同一个制度环境下，你的国民身份认同是很难的。让我们想象今天假如海外有另一个城市，我们说一句很荒谬的话好不好，我们说魁北克的加拿大人，我们说我们在那边培养对法国的民族认同，你觉得可能吗？就它整个环境是彻底不一样的。那么我觉得香港的情况可能差不多。
j'oserais pas faire la comparaison avec Vienne au siècle dernier, enfin même avant la Première Guerre mondiale. Mais je voudrais revenir sur Hong Kong. C'est quand même un cas vraiment très, très particulier parce qu'on a à la fois une grande ville très moderne, mais qui n'est pas entrée en fait dans un système étatique de construction d'une identité nationale. Et donc, quand je parle de ce nationalisme cru lié aux diasporas chinoises du sud de la Chine, en fait, c'est une force motrice dans la promotion d'une identité hongkongaise, mais avant la création d'un État-nation. Et donc, lorsqu'un État-nation comme la Chine arrive, il va essayer de discipliner, de contraindre ce nationalisme cru et c'est la multiplicité de ses contenus dans son cadre à lui d'État-nation. Et donc on est en plein dans cette phase-là, ce qui explique les nombreuses difficultés, les conflits aussi, parce que vous voyez bien que dans ce un pays, deux systèmes, on a vraiment deux systèmes et que cette éducation patriotique, éducation citoyenne que veut mettre en place le gouvernement chinois, on voit bien que ça ne peut pas marcher à Hong Kong. C'est comme si on faisait la même chose au Québec, au Canada, où on poussait en fait les Québécois à apprendre le récit national français de l'histoire. On voit bien que ça irait pas parce qu'en fait leur trajectoire, leur vie quotidienne n'a rien, est très différente de la France.
我先讲中文，我觉得这个爱国的问题的啊，这个香港的怎么可以爱国？第一是这个你要爱国，那你的国应该可爱，这是一个很大的问题，而这几年十几年呢。发生了很多事情的，就是令香港就有一种反感啊，所以第一就是这个问题。另一个问题就是，也是89年六四我们没有谈到的一个结果，就是中国政府就利用民族主义来凝聚中国人的那个力量啊，就是这个民族主义是有很深的反西方的内容，那反西方的内容就是怎么香港人其实已经吸收了很多西方的那个价值观啊，所以这个很难适应的，所以这个我看不到香港人，我同意，就是很难想象。香港人会有和大陆人同样的那种爱国的情绪啊，我一点小的问题，我想改正，梁文道的一个错误。这个错误是什么？他说那些武侠小说、那些功夫片啊，没有打法国人，可是这不对了，因为我自己。1974年派国，我派过一部电影，香港电影叫《巴黎杀手》，我在最后一段就被一个中国英雄打死了。Je traduis en français moi-même. À propos de la question de l'amour de la patrie pour les Hongkongais, d'une part, je pense que c'est très difficile parce que, d'abord, il faut pour aimer la patrie, il faut que la patrie soit aimable. Hein, et donc, le problème, c'est que depuis un certain temps, les Hongkongais ont une réaction plutôt de révulsion à l'égard de ce qui se passe en Chine, et donc ils ont du mal à aimer cette patrie. D'autre part, il faut bien comprendre que le nationalisme qui a été développé, en fait, depuis 89, c'est un autre résultat de 89 dont on n'a pas parlé, c'est le fait que le Parti communiste chinois a utilisé le nationalisme pour remplacer le socialisme, etc., pour unifier la population chinoise autour du parti. Et donc, Et ce nationalisme, il a un fort relan de anti-occidentalisme, hein, un fort relan de même de revanche contre l'Occident. Et donc, comme les Hongkongais ont quand même des valeurs qui sont des valeurs qui héritées de l'Occident, hein, notamment la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, etc., ils ne peuvent pas s'identifier à ce nationalisme-là. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Et puis, par ailleurs, j'ai corrigé une petite erreur de monsieur Lermandor, qui a dit que les Français n'avaient pas été des victimes du nationalisme cinématographique des films de Kung-Fu. Et en fait, je dis que ce n'est pas vrai, puisque moi, j'ai tourné un film en 1974 qui s'appelait Les Assassins. En anglais, c'est The Paris Killers. Dans lequel j'étais un Français qui était battu à mort à la fin du film. Voilà.
Okay. Encore une. Oui.
我就直接问问题了，然后我问题可能主要是对周宝松教授的。就是说，我们关注香港问题很长时间，然后我自己感觉好像在就是一国两制这里面有一些不可调和的，就是两个体制，可以说是冷战后面这种意识形态上的问题。 然后现在假如说一方面在西方现在自由主义也面临的一些问题，比如说全球化带来的一些危机，在这个背景下，然后中国，像刚才道长也讲到，习大大现在在提建就是道路自信啊，文化自信，他在试图建构他的历史，就是那个理论基础。假如说在，那就是他哪一天像金庸先生的鸠摩智，金庸先生里面鸠摩智那样，就是。 就是练成了六脉神剑，通过逆行那种经脉逆行，但是他通过自己的内力挺过了，练到了，就是练成了建构了自己的基础，并且我关注到就是在这个世纪中叶，就是大部分人口众多的国家，可能都是一些，比如尼日利亚、印度尼西亚、孟加拉这种人口众多，就有点像中国这种背景的，他可能是直接实行民主化，可能不太成功。 但假如中国在这种情况下获得了这个话语权的时候，他会对自由主义这个理论有什么影响？就是说，会不会有一种历史终结的终结？好，
je vais traduire sa question. J'ai une question pour Monsieur Zhou, hein, concernant cette question de libéralisme lié à ce que se passe actuellement à Hong Kong. Hein, parce que est-ce que vu le poids démographique de la Chine, le développement de la Chine, dans les décennies à venir, pas mal de pays comme la Chine en voie de développement, comme Nigeria, etc., occupent une place relativement importante. Est-ce que ça ne va pas favoriser un discours qui accorde la légitimité pour la voix chinoise, etc., pour cette question sur l'avenir du libéralisme, je veux savoir comment monsieur pense.
谢谢你的问题，我很简单的回答一下。 你这个问题挺大的，第一就是在这场运动里面，的确是你们可能在这样运动里面经常， 比如在Times 这个有这样的一个说法，就是说香港现在是在全球捍卫自由的最前线，有这样的标题 the front line of 这个 fighting for freedom 或者 defending freedom， 当然这个所谓的争取自由的前线，当然所谓的前线的前面的敌人就是中国。 所以其实这些运动，香港这些运动能够吸引到西方那么多的媒体关注香港这个事情，我当然我觉得背后是有这个中国因素在后面，尤其在过去这两年，大家都美国，其实美国对中国的政策其实发生了一个相当大的改变，就是说美国觉得香港，就中国现在是它的一个。 不再是一个合作者，而是潜在的一个威胁者，甚至潜在的敌人。所以，好像在这场运动里面，好像香港一方面是面对中国要求中国给他自由民主，而自由民主背后是有整个西方的自由民主的阵营在后面支持。你看到现在其实是有这样的一个格局在后面的，而且在香港很多在这场运动里面，香港的抗争者。 他们在打这场仗的时候， 其实也是蛮有意思的，将香港放在这个东西方两个价值的阵营的这个中间这样子的一个对立。所以现在回到你那个问题，所以这个是从这个意义来讲，这场运动的怎么去定位本身是很有意思。但中国 你问的问题当然是 很重要一点，就是比如中国这几年谈非常强调所谓中国模式、中国道路、中国自信，对不对？好像是很多人就觉得中国能够走出一条非自由民主的现代化的道路，而那个所谓中国模式是能够比自由主义的世界、自由民主世界提供的东西是更好的，甚至是更超越它的。 OK， 这个是一个问题、啊、我像这个我说其实这个是蛮重要的，现在我相信在中国跟整个西方的学术界里面非常关注了一个很大的议题，就是说有没有所谓的中国模式，有没有所谓的中国道路，而所谓中国模式、中国道路它是可行的吗？同时是它是可遇的吗？就是 morally 是值得我们去追求的吗？啊，我自己是有保留的，但在这个点上我没办法时间再延伸下去，但是我说我只是将这个问题放在这样的一个 perspective 下面，大家可以思考下去。从这个意义来讲，就是香港的问题就不仅仅是香港的问题。 我希望大家就是说，在座很多人以为香港的问题离我们很远，跟我没有关，我说从这个角度来讲，香港的问题其实是在整个世界的国际政治里面的一个非常关键的一个点上面。因为我相信大家都知道，中国怎么走下去其实是会非常严重的影响整个世界的格局，这个是一个事实。而在这个格局里面，香港其实是扮演非常独特的一个角色。我停在这里。好，谢谢大家。
Je vais répondre de manière très simple. C'est vrai qu'on l'a observé pendant les manifestations, et il y avait une expression, en fait, une façon de dire qui était que les Hongkongais qui manifestaient étaient en première ligne, en fait, pour défendre la liberté et la démocratie. Et de cette manière-là, en fait, ils étaient aussi en première ligne face à un adversaire qui est la Chine. Il est évident que le facteur chinois joue un rôle très important, et on le voit notamment ces derniers temps aux États-Unis, avec un changement important dans la façon dont les États-Unis définissent la Chine, non plus comme un partenaire, mais comme une menace, voire comme un ennemi. Et donc, les Hongkongais qui demandent à la Chine la liberté et la démocratie, ils ont derrière eux les Occidentaux qui les soutiennent, mais ils ont bien conscience justement d'être en première ligne dans ces enjeux politiques entre l'Occident et l'Orient, avec donc cette Chine qui cherche à promouvoir un modèle chinois de modernisation qui serait non démocratique et qui serait supérieur aux pays démocratiques. Donc ça pose effectivement des questions très importantes. Moi, je m'interroge, est-ce qu'il y a vraiment un modèle chinois ? Est-ce qu'il est crédible ? Est-ce qu'il est désirable ? J'y répondrai pas là, mais vous voyez qu'effectivement, contrairement à ce que j'ai pu dire ce matin, si on se place dans cette perspective de politique mondiale, on voit effectivement que le problème de Hong Kong n'est pas seulement un problème de Hong Kong, et l'attitude que la Chine va avoir pour résoudre la question à Hong Kong va influencer le reste du monde.
Je crois qu'il faut deux dernières questions. Hein, on doit quitter la... Voilà.
谢谢各位主讲人。然后我的问题是，就是就刚才各位所说的，就是每一个人基本都提到了八九年的六四运动，就是民主运动。我们在看历史问题的时候，或者是在看当下的问题的时候，我们往往是在看未来的。就是在八九年的时候，这个运动的口号是北京，今天的北京是明天的是可能是明天的香港嘛。然后因为我是北京人，所以说我对这句话还是挺有感触。虽然我不是这一代人，但是对于北京这个词我还是很有感触。我不知道怎么样把 八九年这样一个民主运动和今天的在香港发生的民主运动进行一个连接，然后就是香港今天的这个民主运动能否就是在未来可以变成一个就是那个口号嘛，变成一个香港的今天可能是未来的世界嘛，就是可不可能会变成这样一个结果。而且北京的这个运动其实是在我看来是没有结果的，并且是被暴力镇压的，最后的结果是悲剧的。那今天的香港会不会是明天的北京，就像那个口号所说的一样。我其实这个问题还是想问一下周宝松。
Si vous parlez bien français, vous pouvez le traduire vous-même. Sinon, je traduis. Grosso modo, il est d'origine de Pékin, donc il a posé la question, c'est que aujourd'hui, Hong Kong demande Pékin. Ah, voilà. Est-ce que aujourd'hui, Hong Kong aussi, c'est la demande du monde? Voilà, c'est ça, c'est la question. Pékin en 89 se terminait dans le bain de sang et pas de résultat qu'on souhaite. Et qu'est-ce qu'il pense pour l'avenir?
Ok, 很快一两句。在过去这几年啊，就雨伞运动失败以后，香港年轻人开始出现一波的我之前所讲的港独运动，是有这样的一个思潮，然后他们其实是希望就是说香港的未来就是跟中国脱离关系，独立的意思是说 我跟你没有任何关系了，对不对？所以甚至于在过去这几年呢，香港的年轻人有一批人是反对我们继续去悼念八九的，就是说他们就是更想跟中国，就中国跟我没关了，所以你们还是要悼念八九六四死难者，就是你们还是有中国情结这样子。那过去这几年其实是有这样的一种声音在香港的年轻人中间，所以他们反对大家继续去悼念这个八九六四。我想回答的是说，但是其实我们大家其实都很意识到，就是说香港的命运是不可能离开中国的。然后接着下来另外一个结论就是，我觉得中国没有民主的话，中国没有民主的话，其实香港是不太可能有民主的啊。我觉得香港人是用了好多好多的代价，付出很多的代价来理解这句话，所以在这个意义上来讲，香港是非常非常的天真的啊。然后问题是说，你就明我下一句就是说，如果中国没有民主，香港就没有民主，而现在大陆是不可能有民主的。香港现在当下的这一代人用他们的生命跟自由来争取他们想要的民主，其实是非常的悲壮的。
Pour répondre à votre question, on a vu en fait à partir du mouvement d'Occupy Central en 2014, on a vu certains jeunes hongkongais en fait demander l'indépendance de Hong Kong. Et pour eux, l'avenir de Hong Kong était forcément séparé de la Chine. Et ça se reflète même dans les commémorations du 4 juin 1989 qui ont lieu chaque année à Hong Kong. Ces jeunes étaient opposés en fait à ces commémorations en disant « mais ça n'a rien à voir avec moi parce que ça concerne la Chine ». Donc c'est une voix qu'on entend, qui est minoritaire. Mais il faut quand même expliquer que pour beaucoup de Hongkongais ont conscience, et moi le premier, que le destin de Hong Kong ne peut pas ne pas être lié à la Chine, ne peut pas être séparé de la Chine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sans démocratie en Chine, il semble très difficilement imaginable que Hong Kong puisse bénéficier d'une démocratie. Et donc, la génération qui aujourd'hui est prête à sacrifier sa vie, à tout sacrifier pour ce mouvement de lutte pour la liberté et la démocratie à Hong Kong, eh bien, voilà, elle fait un sacrifice et c'est quelque chose de tragique puisqu'on a du mal à imaginer comment, sans démocratie en Chine, il pourrait y avoir une démocratie à Hong Kong.
讲到这个香港和这个世界还有西方世界的那个联系，我觉得可以和这个西柏林比较，当时西柏林也是这样一个小的一个自由的一个地方，在一个周围的一个全部是共产党制度的一个地方，可是西柏林有一个好处，就是那个时候。48年，那个斯大林就已经围绕了，这个西柏林想实际上是控制西柏林，可是美国人那个时候有，在西德有很多很多飞机，就用飞机来把那个食品送到西柏林，在香港是不可以想象的，就是这个问题。所以问题是一个地理的问题，不是价值观的问题。对，oui, bon, je voulais dire que pour cette question du rapport, enfin de la comparaison entre Hong Kong et enfin du lien de Hong Kong avec le reste du monde et l'affrontement entre le monde libre et un monde plus dictatorial, on peut faire la comparaison avec Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, en 1948, Staline a aussi essayé d'entourer. Berlin-Ouest et d'empêcher qu'il soit approvisionné. Et donc, mais depuis l'Allemagne de l'Ouest, les Américains ont utilisé des centaines d'avions pour ravitailler Berlin-Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible à Hong Kong. C'est un problème de géographie et pas tellement un problème de valeur ou même d'histoire.
Bon, on est absolument, il faut, allez-y, après l'autre. Bon, il faut. Dépêchez, s'il vous plaît.
C'est. 魏老师，问题尽量简短。梁先生，您刚才提到的关于就是以郑芝龙这个为一个形象的代表的一个香港作为靠近南洋这么一个相当于一个世界的，我觉得非常有价值，非常新颖。那个想问您，就是说在冷战之后世界的主要的矛盾从意识形态的对立变成了文明的冲突，那香港作为一个按照您的说法作为一个更加是海洋文明的可能是泛太平洋地区的一个代表，而不是作为中国大陆或者说东亚大陆的一个岛，它作为一个海洋文明代表，与中国我们传统的农耕文明这个冲突会不会成为现在或者以后若干年超越您之前说的几十年的民族主义的空白这个矛盾冲更新的更重要的。
Très bien. Je traduis sa question. Il pense que M. Wendor parlait de Zheng Zilong comme une figure historique qui représente cet cosmopolitain océan Chine autrefois. 30 ans, c'est un cas 30 ans. Sa question porte sur est-ce que Hong Kong, à l'avenir, peut représenter cette Chine océanique vers le monde ou voilà.
C'est... 没有，我并不认为。谢谢。首先，但我并不认为这是一个东亚农耕文明跟太平洋文明的。我不太想这么简单。虽然我好像表述成好像是这么简单的一个概念的对比，是因为我还没有完整的发展好这套讲法。但我的看法是，我这个感触最早有是因为1988年有一个在中国很重要的纪录片影响很大，叫《河商》。我想很多年轻人可能就没听过 那和商的主题呢，是配合当年改革开放的一个主旋律，就是中国过去是一个面向内陆的黄土文明，就只有一条黄河这样的母亲河，然后隔绝于大海，大海代表的是蓝色文明、开放、多元等等。那么他们认为现在应该是中国告别黄土走向海洋的时代了。那纪录片有六集，最后一集好像就讲到深圳，就说深圳是个伟大的南方城市的实验。我那时候看我就觉得很惊讶，很奇怪，就是为什么他好像说到我中国人都从来没见过海似的，我天天都在搭船。就我就发现原来你们的中国跟我的中国不太一样。我想说的是，这个海洋中国或者海洋华人里面的一个最特别的地方，其实是因为他们不像北方要定居，所以他们比较多移动，可能这个就是您讲到农耕文明那个关系，其实他们也农耕的，他们到了东南亚会种棕榈啊等等，可是他的高度的移动跟灵活，我觉得是一个很重要的一个特点。这群人，他们。
Donc, pour répondre à la question, alors je l'ai peut-être pas exactement formulé comme ça. Je voudrais revenir en fait à un documentaire qui a été tourné et diffusé en Chine en 1988, de plusieurs épisodes, donc les élégies du fleuve jaune. L'élégie du fleuve, pardon. Oui, pourquoi ? Et donc qui justement reprenait l'histoire de la Chine en opposant une civilisation liée au fleuve jaune, à la terre jaune, qui s'opposera à finalement une civilisation liée océanique, liée à la mer bleue. Et dans le dernier épisode, le modèle qui était promu était celui de Shenzhen, avec cette idée donc de s'orienter plutôt vers les côtes et vers la mer. Et j'étais très surpris quand j'ai vu cet épisode, parce que pour moi, la Chine, c'est une Chine qui est aussi maritime, puisque je prenais le bateau tous les jours. Donc j'avais juste l'impression qu'on n'avait pas la même vision de la Chine. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la Chine du Nord, pour certaines, en raison de certaines conditions, effectivement, les gens vont plutôt s'installer, vont se fixer à certains endroits, alors que dans cette Chine du Sud, il y a une plus grande mobilité, il y a plus de migration et donc une plus grande fluidité.
Bon. Deux dernières questions, parce que je vois que... Après, on s'arrête. Laissez chaque intervenant, chacun une minute pour dire deux, trois derniers mots. Même, allez-y, soyez court, s'il vous plaît. Après, allez-y, après.
Peut-être que梁先生还没有回答完刚才的问题。
黄色的谢谢黄色的他的爱跟之前说的爱国主义的空白更加重要的区别，
就这个矛盾会怎么样，您的意思是我觉得现在就已经是这整个矛盾最激烈的阶段，其实一直以来都有类似的矛盾，就各方面的冲撞，现在用爱国主义或者民主主义这方面的表达已经到了最强烈的阶段了。
On est déjà en fait dans la phase de confrontation la plus forte en fait entre d'un côté donc ce nationalisme venu de Chine continentale et Hong Kong。
OK，
我的问题基于我自己的一个观察，就是我现在观察到，就是香港和中国大陆的青年人，就是我们这一代的人，那边是被一种追求自由的革命的一种热情，有点甚至有一些浪漫主义的热情，我们这边是一种
是一种就是说保守的维护统一的爱国的热情所控制，所以两方都有一些不理性。然后我所观察到的在法国在加拿大等等外国的首都经常会出现这种情况，就是有香港的示威者，年轻的示威者在表达自己的意愿，但是有大陆的反示威者在旁边就是骂脏话。我自己其实对这种现象是比较汗颜的，但是我的想法就是说能不能在这种情况下还有没有希望再建立一种理性的沟通，就是不要把这个事情完全在非理性的上面去。
很好，谢谢。哎，那位同学来来来，你拿回赶快，你结束之后我们就然后请几位按照文章统一回答，然后
老师好，就是我想问的一个问题就是说一个因为无论是什么样的理念你都需要一个主体去，那么就是说在当今的话我们如果说我们希望中国的民主化的话，我们要寻找一个主体，就比如说在80、90年代的时候，我们会那些自由主义者会希望说随着这个经济自由化，那么中产阶级会承担起这个中国这个解放的这个任务，但是今天我们也看到就这个想法已经基本上失败了，而中国的这新一代年轻人其实某种上也非常的国家主义化，包括像我觉得像可能在座的不知道有没有这种感觉，就在自己的同学中其实是比较少数的，就是站在香港这一边的，所以说在这种情况下就是说我们因为再加上现在中国大陆它对这个整个互联网这媒体的把控也非常厉害，那么在这种情况下我们能找到一个怎样的主体去承载着就是说我们实现民族化这个民主化这个希望，当然除非你持有一种非常坚定这种历史决定的立场的话就不需要这样一个主体，但这样的话我们的讨论就没有任何意义，所以就是我们今天的话我们有怎样一个群体能够起到这样的
太平je vais traduire les deux questions, rejoindre un peu. Hein. Les deux questions, pour lui, il pose des questions parce qu'il voit maintenant en Hong Kong les jeunes alimentés par cet enthousiasme, idéalisme pour défendre la liberté, la démocratie. Etc. Bon, en même temps, du côté de la Chine continentale, les jeunes maintenant, plutôt influencés par... conservatisme étatique essaie de défendre un peu l'intérêt de la nation, etc. Voilà, donc comment, selon lui, peut trouver lui-même, il ne partage pas certains amis continentaux, parfois insultent des jeunes hongkongais, ça se trouve aussi dans le plusieurs endroits du monde. Et donc, mais et selon lui, sa question, c'est comment on peut essayer de trouver une manière de réconciliation, voilà. Et pour sa question, c'est encore plus philosophique. Voilà. Donc, il pense que, par exemple, 89, à l'époque des années 80, il y a ce sujet qui incarne cette volonté pour la démocratisation en Chine. Donc, à l'époque, on parlait aussi de classe moyenne, etc. Bon, maintenant, plus ou moins, ce discours un peu en faillite. Et donc, selon lui, comment trouver ce sujet qui incarne cette volonté, l'espoir de démocratisation en Chine. Voilà, c'est les deux questions plus ou moins rejointes. Il m'a arrivé...
Oui, voilà. 我要回答两位朋友的问题之前，我要说几句，或等一下，我因为没太多机会要讲了。首先，真的要再次谢谢张伦教授跟这个今天梅女士帮我们做这个非常好的翻译，啊，忙了一整天，我自己最少代表我们三个人非常感谢你们的这个邀请。其实同时也要谢谢各位今天一整天的参与哈，这个是真实的，我觉得。我们昨天在吃饭的时候还在说笑说，今天会不会有很多所谓的五毛来攻击我们啊什么样的，但今天来了一整天，其实我感觉整个气场是非常的愉快，而且非常的感动，而且我真的是虽然没有很多时间的关系，但是我完全可以感受得到在座其实几乎所有的朋友其实对香港对中国其实有非常真实的关怀，我相信来到这中间我是完全感觉到就这样一种氛围，而且我觉得是非常棒，所以我其实也要谢谢大家。很快的回答你这两位朋友的问题，第一就是理性的交流，其实我们当然希望，其实今天这样子的场合其实就是一个理性的讨论，而且我觉得最大的我必须也要强调一次，我今天一开始说其实没有完美的社会运动，
这场运动里面其实我也有很多，包括我自己在里面其实有很多反思，有很多的思考，甚至对示威者的很多行动其实我有我自己的保留的意见，其实是有的啊，所以其实在我自己觉得在任何的环境里面其实是应该都有这样的理性讨论才好，而不是说只有一种声音。但大家也看到我在比如在香港这个事情里面真正阻挡理性讨论的其实是中国官方啊，就是让就是我说如果中国你觉得自己是对的那我们就公开的辩论对不对，但你知道知乎在大陆所有关于香港的讨论几乎是不可能的，你只能够听到一种的声音，所有所以你像在微博上面几乎好像我们这种人其实早就被炸掉了，就是说你剩下来的声音你会看留意
这个问题严重了啊
很快就是你会看到所有这一类只是真的是一面倒啊，其实这个是最不健康的状态对不对，所以我同意你的观点，然后我们可以做的事情比如大家你们在法国有机会接触到不同的资讯，其实我们每个人其实都可以在你自己的位置里面做点事情，你比如你在转发一些信息或者说你在你身边的朋友你的朋友圈做一些抵抗一下，我觉得抵抗是在每个人的生活里面都可以做的。 OK， 这个是第一个回应，很快回应那位朋友的问题你的问题是非常棒的问题，其实我自己也非常经常在思考就是关于中国下一步的社会转型，你谈的用这个词是主体对不对，就是说我们需要建构什么样的主体才能够承载这样的一个社会转型呢，那我知道有不同的说法哈，对不对，你刚才所讲的中产阶级有些人说是基督徒有些人是说这个新一代的年轻人诸于此类我没办法跟，但我觉得这个问题是很好的，但我现在没办法强势的谈，但是我只是指出一点如果我们是想中国将来变成一个好像法国这样子的一个自由民主的社会，自由民主是一套理念对不对，所以如果我们希望中国变成自由民主的社会是什么，相应的主体就是应该这些我们应该有一个自由民主的公民，希望中国人大家慢慢的变成一个接受自由民主作为你的世界观你的行动你理解这个世界的一种的一个框架，然后你这个框架就构成你成为我称呼这位叫自由人，你就是一个自由人的主体 OK， 而这个自由人的主体可能是超越特定的宗教超越特定的阶层超越特定的社会背景，而是大家能够共同接受的，有没有这个可能呢？那我刚才今天早上我报告的时候我说这一次香港这次运动其实基本上是一个全民运动，它不仅仅是某一个特定的阶层，不是某一个特定的阶级，甚至不是某一个特定的教派的人来争取，而是整我觉得是整个香港从低下阶层到所谓的中产阶级，从蓝领到白领，从年轻人到老年人，他们都是在共享一个共同的主体，这个抗争的主体背后就是接受了一些自由民主的理念，要用这样民主理念来支撑他们的抗争。如果香港是有这样的可能性的话，中国有没有这样的可能性？如果这个是我们可以想象的方向的话，其实在座各位年轻人，大家如果你关心中国的未来的，其实摆在大家面前这个很真实的问题，说我们将来有没有可能在中国一起努力去建构这样的一个自由人的主体，来推动中国的政治改革？我个人来讲觉得这个是唯一的出路。 好谢谢。
Donc avant de répondre aux deux questions, je voulais évidemment remercier le professeur Zhang et aussi remercier beaucoup le public, parce que je m'attendais en fait à rencontrer ce qu'on appelle les 5 Mao, c'est-à-dire les personnes qui font de la propagande pour le régime chinois pour 50 centimes. Et je pensais être attaquée par eux. Et en fait, pas du tout. On a réussi à avoir un vrai débat, un vrai dialogue, même si les questions n'ont pas été... le temps d'échange a été trop limité. Comment faire pour construire un dialogue rationnel? Bah, aujourd'hui, c'était le cas. Et donc, ça montre que c'est possible. Il faut bien penser qu'aucun mouvement social n'est parfait, comme je l'ai dit ce matin. Et moi-même, j'ai beaucoup de réflexions, je me pose beaucoup de questions. J'ai mon propre avis aussi sur certaines actions des manifestants. Et c'est vrai que ce serait important de pouvoir avoir ce genre d'espace de dialogue parmi les manifestants, mais aussi avec d'autres gens qui soutiennent d'autres avis. Évidemment, c'est très difficile parce que du côté chinois, il y a cette volonté d'imposer en fait une seule voix, comme je l'ai montré ce matin avec le fait que mes comptes sur Weibo aient été supprimés. Donc c'est vraiment le débat est rendu presque impossible. Alors après, on peut chacun faire des choses dans son environnement quotidien, chacun discuter, peut-être contre-argumenter face à certains discours, ouvrir le dialogue. La deuxième question, merci beaucoup de l'avoir posée, elle est très intéressante. Quel sujet pour construire une transition sociale en Chine? C'est une question très importante, évidemment très difficile d'y répondre. Certains disent les classes moyennes, d'autres disent les nouvelles générations. En fait, moi, je répondrais que si on veut qu'une force soutienne une transition vers une société démocratique, eh bien, il faut construire cet homme libre dont j'ai parlé ce matin, ce citoyen démocrate qui est ouvert sur le monde, et ça dépendra pas ni d'une classe sociale ni d'un groupe d'âge, etc. Est-ce que c'est possible? Le mouvement à Hong Kong qui justement concerne toute la population chinoise montre que c'est possible, des plus défavorisés aux plus favorisés, des cols bleus aux cols blancs, des jeunes aux vieux, parce qu'ils partagent un sujet commun. Donc si c'est possible à Hong Kong, peut-être que ce sera possible en Chine. Ça dépend des efforts de chacun.
Okay. Chacun une minute.
我觉得刚才宝松讲到自由人这位主体，这种人是需要一些能力的。那这个能力恰恰就跟这位先生所提到那种问题相关。最近几年我们看到这么多的我们海外留学生跟移民在海外发生的种种的游行示威的冲突场面，以前可能是跟台湾人、西藏人、维吾尔人，现在发展到香港人。那么这类场面的模式比较接近，通常都是一方举标语，然后有一些海报，然后他们提一些口号或者一些具体诉求，而另外一边呢的回应方法，至少从我所见到的啊，这可能是错的，我觉得通常都比较单调的回应，通常是中国不可分割，然后不管对方在讲什么，他其实来来去去都是那几句，反疆独、反藏独等等等等。那当维吾尔人在展示他们得到的一些材料关于新疆的情况的时候，我们的回应方法通常也是我们反疆独，就而不是具体去回应他指出的那些问题，就有点像现在香港这个情况。这说明什么？这说明其实背后严重欠缺论述能力，而这种论述能力的欠缺是包含两个部分。第一个部分是对整个事实材料根本不掌握，就比如说香港人要的所谓的五大诉求是什么，在什么背景下提出不知道，但先用脏话骂了他再说，反正呢就是港独。 那第二就是一个说理的能力，论辩能力。那么这两种东西都非常欠缺，我觉得这件事情并不，您不需要汗颜，这并不是我们海外学生群体的独有的特性或移民的特性，而是今天整个中国民族主义里面的一个特性。就中国民族主义今天已经发展到一个阶段，就是我叫做人民币爱国主义，就是说两句不到就不论述了，因为没有什么理由可以再拿去讨论的时候，就说你是不是不想赚13亿中国人民的钱了，我们就杯葛你。然后就是我们基本上就是说到最后就是这个，而且很快就到。比如说NBA 火箭队莫雷，讲一句话，你不是跟他去讨论，不是回应，不是辩论，而是说我不播了，你别赚这个钱了。就这样子长久下去会造成一个情况，就是你整个国家你用来鼓励人家非你的国民对你有好感，然后你让自己的国民要爱你的最大的本钱跟武器就是钱，没有别的，就是这样。你没钱的时候怎么办？
Pour conclure, je voudrais revenir à cette idée d'homme libre que Bao Song a mise en avant. Ça suppose des capacités, en fait. Et on voit bien quand on voit ces étudiants à l'étranger, ces étudiants chinois qui ont régulièrement des conflits, en fait, avec d'autres étudiants. Alors avant, c'était sur Taïwan, sur le Tibet, sur les Ouïghours, aujourd'hui c'est sur Hong Kong. Souvent, ils, face aux argumentations qu'ils ont en face d'eux, eh bien, ils vont répondre des choses un petit peu toujours les mêmes, en fait, assez pauvres en arguments. C'est la Chine ne peut pas être séparée, on ne peut pas accepter l'indépendance du Tibet, de Hong Kong et autres. Et même parfois, quand on parle des Ouïghours, ils vont quand même répondre sur l'indépendance du Tibet. Donc ça montre un problème dans la capacité, en fait, à connaître la réalité, l'intérêt pour les faits, en fait, pour la vérité, qui pose question. Par exemple, sur les 5 revendications des manifestants hongkongais, il n'y avait aucune envie de savoir, de connaître ces 5 revendications, de savoir quel était leur contexte. Les étudiants chinois répondaient simplement par des insultes, en tout cas dans ceux que j'ai pu observer. La deuxième chose, c'est cette incapacité aussi, et donc à l'inverse, la capacité qu'on devrait construire à argumenter, à pouvoir débattre avec quelqu'un d'autre. Souvent, et je le dis, et ça, c'est pas propre aux jeunes qui étudient à l'étranger, c'est un vrai problème de toute la Chine, de ce que je qualifie le nationalisme du renminbi, donc le renminbi étant la monnaie chinoise. En fait, dès que quelque chose ne plaît pas, dès que on va entrer en discussion avec quelqu'un d'autre, eh bien tout de suite l'argument de l'argent va venir pour contredire l'autre, dans le sens, est-ce que tu veux ne plus avoir l'argent de ce marché d'1,3 milliard de personnes? Et on l'a vu avec la querelle sur le NBA, le tournoi de basketball, il y a eu cette menace justement de retirer l'argent. Et donc ce que fait ici la Chine, elle encourage en fait chacun de ses citoyens à être fier d'un État qui a de l'argent. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'argent et quelles autres valeurs on promeut?
Bon, ça a été une longue journée la salle est toujours aussi pleine, ce qui prouve que la question de Hong Kong intéresse. Et si la question de Hong Kong intéresse, ce n'est pas par hasard. Ce mouvement dure depuis 5 mois et c'est dans le monde l'un des rares mouvements qui n'est pas à propos uniquement de lutte contre les inégalités ou de nationalisme, d'exaltation du caractère national. C'est un mouvement qui se bat pour les libertés politiques, pour la possibilité de descendre dans la rue pour obtenir le suffrage universel, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup aujourd'hui dans le monde. Et je crois que je voudrais reprendre ce que disait Joe Baosong tout à l'heure. Il y a une chose qui est importante pour parler. Vous savez, dans l'histoire, il y a des périodes qui sont des périodes fastes et des périodes de reflux. On peut dire qu'actuellement, sur le continent chinois, on est dans une période de reflux. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, il suffit que vous lisiez toutes les sources d'informations et que vous discutiez pour que la Chine devienne démocratique. Non, ce n'est pas ça. On est peut-être dans un moment où il faut effectivement former des citoyens et que notamment les gens qui ont la chance d'être à l'étranger ou d'être à Hong Kong puissent se former le plus possible, mais on ne va pas immédiatement changer la situation en Chine. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui se battent pour la démocratisation et au fond pour la démocratisation de la Chine, ce sont justement les Hongkongais. Ils montrent que malgré toute sa force, malgré toute sa richesse, le régime chinois n'est pas si doué, n'est pas si fort. Aujourd'hui, les dirigeants chinois ne savent pas quoi faire. Ils ont trouvé quand même l'idée de remettre l'article 23 et l'éducation patriotique qui sont des faillites notoires au cours des 15 dernières années. Ne pas avoir d'autres solutions à proposer à un tel mouvement qui dure depuis si longtemps, c'est tout de même une grande preuve de faiblesse. Donc, sachez toujours que derrière sa force apparente, derrière la concentration du pouvoir entre les mains de Xi Jinping, il y a aussi une faiblesse, un manque de confiance, un manque d'imagination. Et au fond, ce qu'il faut, c'est continuer à observer ce qui se passe à Hong Kong, parce que si un mouvement a fait preuve de créativité, c'est bien le mouvement qui est en train de se dérouler à Hong Kong. Merci.
La traduction chinoise tout à l'heure en privé.
Ah bon, okay. Oui, bon, en fait, beaucoup de choses ont été dites. Oui, je parle en français. Oui. Non, mais. 我想跟中国学生讲，因为我在香港中文大学，我是讲文化大革命，所以我现在我觉得有时候我很担心的就是，中国青年在大陆是很容易被利用。像当时的那些红卫兵被毛泽东利用，而且变成非常不理性，我在香港，我在巴黎看到了香港小学生搞的一个小活动啊，来了一大批的大陆学生啊，肯定是大学馆派的，他们是非常有组织什么的哈。他们都是说，哎，你们什么你们是我们是中国人，你们是中国人啊，因为他们讲法文的说 ，Nous sommes chinois, vous êtes chinois， 以后他们说叛徒，这样的，就是这种思想，这种很容易被洗脑，以后很容易。很自愿的，这是自甘奴吧？自甘奴的就是很自愿的，就是被一个政权利用的这种态度，我觉得非常可怕，非常可怕。所以呢，我希望就是你们看香港的问题，你们要真的是用自己的脑子，要尽量了解，不只是重复一些民族主义的，就是。而且这种民族主义的一些口号，而且这种民族主义实际上是一个假的民族主义。实际上，这种八九年以后的那种民族主义，就是要让中国人爱国等于爱党啊，就是爱国爱党的啊。实际上就是党的利用的这个民族主义来保护他的权利啊。所以这个。我觉得你们要看透，你们要动自己的脑子。好，
我给你插句，
Merci.
谢谢潘老师的教诲啊。Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le chinois, les propos de M. Bonin essentiellement s'adressent aux Chinois dans la salle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il enseigne maintenant la révolution culturelle à Hong Kong. Il a un souci, une crainte, hein, de voir cette génération des jeunes Chinois de Chine continentale être manipulés comme les gardes rouges sont manipulés par Mao pendant la révolution culturelle. Donc, il invite tous les jeunes, hein, au moins dans cette salle, de regarder ce que se passe à Hong Kong avec sa propre regard, réfléchir avec une regard critique. C'est ça, c'est le message qu'il essaie de faire passer. J'ai bien parlé ou pas? OK. C'est mon tour maintenant. Trois phrases. Première phrase, c'est le premier mot que j'ai appris il y a presque 30 ans en France. Merci. Merci des cinq indépendants. Deuxième phrase, encore merci pour Madame Ormel. Troisièmement, encore. Je n'ai pas compris. Ton avis est sur la situation.
Je peux juste dire une phrase. Oui. En fait, puisqu'on parle de nationalisme, il y a un autre mot qui existe, c'est le patriotisme aussi. Voilà, est-ce que le nationalisme ou le patriotisme doit être forcément la fierté à l'égard de notre gouvernement, de notre État ? Qu'est-ce qui fait la fierté, par exemple, de la France ? Qui est-ce qui a construit la sécurité sociale, etc. Beaucoup de choses en France, ce sont aussi les luttes sociales et ce ne sont pas forcément nos gouvernements, nos gouvernants. Voilà.
Le dernier mot, la dernière phrase, le dernier mot encore, c'est merci. Ce n'est pas merci pour moi, c'est merci pour vous, hein, pour consacrer cette journée, d'être là jusqu'au bout. Je vous remercie sincèrement. À bientôt.